Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Aliette Ovine, Arjuna Andrade et Cédric Fuentes. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Élise Leu.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Quatrième et dernière étape de notre exploration des îles et de leurs modèles économiques. Après avoir dépeint l'histoire tourmentée des îles à sucre, les résistances et les craintes de Taïwan face à la Chine et les stratégies de survie des économies du bout du monde, c'est l'île comme laboratoire que nous allons examiner aujourd'hui. En 1516, Thomas More décrivait dans l'Utopie ou le traité de la meilleure forme de gouvernement une société idéale régie par une stricte égalité. 5 siècles plus tard, les libertariens américains se sont emparés de cet imaginaire pour concevoir une île artificielle, flottante, affranchie de l'autorité de l'État. Si le projet est encore loin d'être abouti, il illustre la persistance du rêve d'un territoire vierge où tout est à réinventer. Il est 14h sur France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons partir à la découverte des utopies insulaires en compagnie d'Ioana Andreescu, chercheuse associée à l'EHESS, chargée de cours à l'Université Paris 3 et auteure de la thèse « Lieu de savoir, lieu de pouvoir, le laboratoire narratif de l'île dans la littérature européenne d'après-guerre », en compagnie également d'Éric Fougère en duplex d'Aix-en-Provence, directeur de la collection « Des îles » aux éditions Petra et auteur de cet ouvrage « Escale en littérature insulaire » publié chez L'Harmattan. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'Écho présentées par Arjuna Andrade et la chronique de Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques.
Alors, quand on lit ce livre, Triste Tropique, on se dit, mais pourquoi n'avez-vous pas choisi la littérature au sens strict du terme? Pourquoi n'avoir pas choisi le roman, le théâtre?
Ah oui, écoutez, ça je peux très bien vous expliquer. Parce qu'à l'origine, Triste Tropique, dans ma pensée, c'était un roman. Et un roman qui s'appelait Triste Tropique.
Ah oui.
C'était le titre. Et puis, au bout de 50 pages, je me suis aperçu que j'étais en train de faire du très très mauvais Conrad, pour qui j'éprouve une admiration éperdue, et que j'étais pas fait pour ça. J'ai donc abandonné.
Mais comment vous...
J'ai pas assez d'imagination. Je ne sais pas inventer, je ne sais pas créer des personnages.
Qu'est-ce qu'un ethnologue? C'est bien quelqu'un qui crée lui aussi des personnages, on dirait qu'ils sont vivants. Mais il va dans les détails, les chercher,
il les met... Je dirais qu'il les crée, hélas, parce qu'il les réinvente. Ouais. Mais enfin, c'est pas ce qu'il voudrait faire. Il voudrait être aussi exact et authentique que possible et il voudrait copier ses modèles.
Ioana Andreescu et Éric Fougère, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous. C'est la voix de Claude Lévi-Strauss qui ouvre cette émission. Il était au micro de Bernard Pivot dans l'émission Apostrophe le 4 mai 1984. Alors la littérature peut-elle mieux expliquer le monde que les sciences sociales? La question semble pertinente lorsque l'on parle de l'île, Ioana Andreescu.
Pour en commencer, je dirais que la meilleure de choses serait de ne pas créer une sorte de querelle entre les sciences humaines et sociales et la littérature. Au contraire, de voir la manière dans laquelle elles peuvent contribuer ensemble à ce qui est un savoir du monde et de mieux expliquer le monde et aussi ses réalités qui sont d'ailleurs très très complexes et très multiples. Du coup, je ne dirais pas que la littérature explique mieux le monde que les sciences humaines et sociales, mais qu'ensemble, en fait, il y a un partage qui est tellement intense et tellement important qu'on ne pourrait pas nier ou laisser de côté, tel qu'il se voit aussi dans les propos de Lévi-Strauss. En fait, il part de l'idée de faire un roman, en fait, de créer un roman, et il se rend compte au bout de 50 pages qu'il voudrait plutôt, en fait, qu'il va transformer après des années à des années ce manuscrit dans quelque chose d'autre qui est un travail ethnographique.
Mais c'est bien la littérature, Ioana Andreescu, qui s'est beaucoup emparée de ce motif de l'île. Alors justement, pourquoi est-ce que l'île est considérée dans la littérature comme un espace propice à l'expérimentation sociale et politique ?
D'un point de vue de côté de la littérature, en fait, il y a vraiment un vrai savoir lié à la littérature qu'on pourrait débattre ensemble aujourd'hui. Et il y a en fait quelque chose qui est spécifique à la littérature, qui ne provient pas de sciences humaines et sociales, qui est spécifiquement littéraire, qui peut contribuer à ce savoir du monde. Du coup, oui, il y a vraiment, la littérature est capable et le fait de manière renouvelée au fil des années, en fait, de s'emparer des objets, surtout aussi du thème de l'île, l'île et de créer un savoir et d'expliquer le monde.
Et quelle est cette spécificité justement dont vous parlez, cette spécificité de la littérature?
Je pourrais dire que la spécificité de la littérature est très multiple. En fait, sa manière de fonctionner est différente de celle des sciences humaines et sociales en partie. Et la différence est constituée en fait par le fait que ces mécanismes sont différents. En fait, pour avoir un ouvrage littéraire qui plaît, la littérature doit être séduisante. Personne ne demande aux chercheurs en sciences humaines et sociales de séduire le lecteur, même si ça se fait, bien sûr. Au-delà de cela, en fait, il y a toutes ces spécificités littéraires telles que le jeu, le double langage, l'ironie, qui sont spécifiques à la littérature, qu'on ne pourrait pas exiger d'un autre type de texte.
La littérature qui parle de l'île, de l'utopie insulaire, Éric Fougère, permet de penser les rapports entre culture et nature et peut-être de dégager des constantes dans la nature humaine.
Oui, alors, bon, l'île est un objet géographique, mais c'est aussi un objet littéraire, une image. Bon, le philosophe Emmanuel Kant en fait une métaphore de la raison pure, hein, d'un pays environné de brume. Ou bien c'est Pascal qui en fait une image de la condition humaine, la condition de l'homme prisonnier.
Hein, en quoi l'île peut-elle être une métaphore de la raison, Éric Fougère?
Pour les raisons évoquées par Kant, c'est-à-dire le fait que l'île est un espace fini, hein, environné d'eau de tous côtés, par conséquent, bon, parfaitement transposable, parfaitement transparent à la carte qu'elle pourrait être à l'échelle 1, hein, grandeur nature, c'est-à-dire un lieu aussi distant, un lieu distinct qui correspond donc à son image idéale, une entité géographique où la partie rejoint le tout. C'est aussi de London, hein, qui parle de d'île comme métaphore de la personne humaine, hein, même s'il dit que nul n'est une île en soi.
Alors justement, l'île comme personne humaine, pardon de vous interrompre, Éric Fougère, c'est un aspect important qui permet de relier l'île et la littérature, parce que ce que vous dites, Ioana Andreescu, c'est qu'on peut aussi penser la ressemblance entre l'écrivain et l'île. L'île ressemble peut-être d'une certaine façon à une page blanche.
Oui, tout à fait. En fait, la position de l'écrivain peut être souvent une position de s'isoler de sa société afin de mieux l'observer, ce qui est aussi le cas de l'île. En fait, l'île, elle est souvent déserte, mais elle est décrite par quelqu'un. Du coup, il y a un observateur, un sujet qui la regarde et qui l'analyse aussi. Et pareil, la position de l'écrivain est celui, en fait, de prendre souvent un peu de recul afin de pouvoir se dédier à l'écriture et à la construction de cet autre monde qui est souvent aussi, qui doit porter aussi une sensibilité, être empathique, en fait. Il a un travail presque architectural, on pourrait dire, quand il s'empare du thème de l'île.
Mais pour que l'île puisse constituer un laboratoire social, politique, elle doit remplir certaines conditions, Ioana Andreescu. Ça ne peut pas être n'importe quelle île.
Oui, tout à fait, ça ne peut pas être n'importe quelle île, mais finalement, les îles en littérature, on voit que plus qu'elles assument cette capacité d'être lointaine, de ne pas être, de faire partie du réel, plus qu'elles peuvent être chargées de ce contenu politique, social et de réflexion. Du coup, on voit ici un pouvoir de la littérature ilienne qui est celui de dissimuler ou de faire des allusions. On peut beaucoup dire en faisant allusion à certains aspects.
L'île qui tient une place particulière dans les récits des origines, Éric Fougère, en particulier dans la littérature du XVIIIe siècle.
Oui, alors on parlait des différentes images de l'île. Effectivement, il y a cette image, bon, qui n'est qu'une métaphore parmi d'autres, du laboratoire, qui fonctionne en raison d'une double propriété de l'espace insulaire, bon, de sa coupure, qui instaure une espèce de fragmentation, de discontinuité. Bon, l'île est vraiment distincte, et puis sa clôture qui met l'île au centre, d'une manière ou d'une autre, hein, même si elle est considérée comme périphérique, marginale. Bon, effectivement, c'est littérature utopique au XVIIIe siècle en font le centre en raison de cette clôture. Alors effectivement, Ioan Andreescu parlait de l'île déserte, bon, équivalent de la table rase, hein, une espèce de discours de la méthode qu'on pourrait développer en six points, hein, au XVIIIe siècle, avec effectivement l'essor des Robinsonades, et puis ces Robinsonades un peu particulières qu'on appellera les Robinsonades philosophiques. Mais bon, j'ai déjà peut-être un peu trop parlé, si vous voulez, on reviendra sur ces six points qui, à mon avis, fondent le discours de la méthode insulaire et peuvent éventuellement permettre de parler de la
On pourra y revenir au cours de cette émission, en effet, mais restons au XVIIIe siècle. Éric Fougère, le motif de l'île permet à Marivaux de mettre en scène une inversion de la domination, comme ici dans l'île des esclaves, représentée pour la première fois en 1725. Le maître Iphicrate et son valet Arlequin ont fait naufrage sur une île où les esclaves deviennent maîtres et inversement.
Je ne te comprends point, mon cher Arlequin.
Mon cher patron, vos compliments me charment. Vous avez coutume de m'en faire à coups de gourdin qui ne valent pas cela. Et le gourdin est dans la chaloupe.
Et ne sais-tu pas que je t'aime ?
Oui, mais les marques de votre amitié tombent toujours sur mes épaules, et cela est mal placé. Ainsi, tenez pour ce qui est de nos gens, que le ciel les bénisse. S'ils sont morts, en voilà pour longtemps. S'ils sont en vie, cela se passera, et je m'en goberge.
Mais j'ai besoin d'eux, moi.
Oh, cela se peut bien. Chacun a ses affaires, que je ne vous dérange pas.
Esclave insolent !
Vous parlez la langue d'Athènes, mauvais jargon que je n'entends plus.
Mais connais-tu ton maître ? Et n'es-tu plus mon esclave ?
Je l'ai été, je le confesse à ta honte. Mais va, je te le pardonne. Les hommes ne valent rien. Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave. Tu me traitais comme un pauvre animal et tu disais que cela était juste parce que tu étais le plus fort. Eh bien, Iphicrate, tu vas trouver ici plus fort que toi. On va te faire esclave à ton tour, on te dira que cela est juste et nous verrons ce que tu penseras de cette justice-là. Tu m'en diras ton sentiment, je t'attends là. Quand tu auras souffert, tu seras plus raisonnable, tu sauras mieux ce qu'il est permis de faire souffrir aux autres. Tout en irait mieux dans le monde si ceux qui te ressemblaient recevaient la même leçon que toi. Adieu, mon ami. Je vais trouver mes camarades et tes maîtres.
Un extrait de la scène 1 de L'île des esclaves, joué ici par Louis Drillon et Cédric Fuentes, de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Que nous apprend cette pièce de Marivaux, Éric Fougère ? On a le sentiment que l'île permet à Marivaux de se demander dans quelle mesure les inégalités sont finalement un construit social.
Oui, alors Marivaux, en bon écrivain des Lumières, a commencé par sa carrière par le roman, et un peu comme Lévi-Strauss, a renoncé au roman momentanément avant de passer au théâtre. Et il est intéressant de rappeler que son premier roman, enfin son œuvre de jeunesse, est une Robinsonade, les effets surprenants de la sympathie. Ça se passe sur une île déserte aussi. Alors effectivement, il y a un théâtre insulaire de Marivaux. Il y a l'île des esclaves, bien sûr, on vient de le voir, hein, mais il y a aussi la colonie, l'île de la raison. Et puis la dispute. Alors l'île des esclaves, oui, nous sommes dans une espèce de base clos, hein, c'est une des conditions que le laboratoire insulaire doit remplir. Et effectivement, un naufrage fait naufrager des... s'échouer des maîtres sur une île où des maîtres avant eux ont déjà échoué et qui effectivement se voient renverser leur rôle. Bon, mais on retrouve ce thème dans toutes les pièces de Marivaux, en fait.
Et l'île lui permet peut-être de faire cette critique, puisque la critique a lieu dans un espace éloigné, imaginaire.
Oui, alors, dans l'île des esclaves, si vous permettrez, l'exemple n'est pas forcément l'exemple idéal. Moi, j'aimerais plutôt parler de la dispute. C'est une autre pièce de Marivaux où il est question d'inversion aussi, ou tout du moins d'un débat qui consiste à se demander lequel des deux sexes, enfin qui des deux sexes a trompé le premier l'autre. Et donc on enferme pour cela un couple d'enfants de la nature, hein, c'est-à-dire qu'on a fait grandir sans père ni mère. Et c'est là que la métaphore du laboratoire insulaire prend dans cette pièce plutôt tout son sens, hein, nous sommes avec ce couple d'enfants de nature, hein, loin de tout contact humain, sous les yeux d'un philosophe installé dans une galerie circulaire en surplomb. Hein, et le but est de créer les conditions d'apparition d'une origine absolue, hein, pour en dériver alors les origines du langage, de la pensée, mais aussi effectivement la question sociale, la question des sexes, voilà. Donc une espèce de on profite de l'île pour faire un travail d'épistémologie ou de génétique mathématique en quelque sorte philosophique pour savoir quelle est l'origine, quelle serait l'origine absolue des choses. Bon, et effectivement, on va chercher ça dans un hypothétique état de nature que l'île a pour fonction de révéler.
Donc on voit bien que l'île peut constituer ce terrain d'expérimentation. Et vous avez également travaillé, Éric Fougère, sur un roman plus récent, L'invention de Morel, d'Aldolfo Bioy Casares, publié en 1940, qui est devenu un classique du genre fantastique et qui permet lui aussi de penser l'île comme un territoire d'expérimentation éloigné des regards. Est-ce que vous pouvez nous raconter cela ?
Ah ben, bon, raconter, c'est un court roman, mais il est assez difficile à résumer. Bon, en fait, on est en présence d'un fugitif qui fuit on ne sait quel problème lié à un passé et à la justice, ou tout du moins à la police, et qui se retrouve sur une île réputée donc distante, éloignée, isolée, donc qui remplit les conditions d'une cavale. Et donc là, le personnage est en présence, rencontre bientôt après un bref épisode de Robinsonade, de survie sur une île réputée déserte, dans des conditions de survie solitaire, se trouve en présence de personnages et parmi lesquels il tombe amoureux d'une femme. Et donc effectivement il y a un climat de mystère parce que ces personnages n'ont pas l'air de s'apercevoir que ce personnage est au milieu d'eux. Alors Morel, c'est un des personnages, le savant qui a trouvé le moyen de par un système, le mot n'est pas employé dans le roman, mais d'hologramme, de figer une semaine de la vie de ce groupe humain, ainsi d'emprisonner la femme dont il est tombé amoureuse, mais qui ne le payait pas de retour. Et donc le personnage donc du naufragé, enfin du fugitif, revit un petit peu les mêmes aventures que Morel et voit son amour pas payé de retour.
On voit bien, Éric Fougère, pardon de vous interrompre, comment ces sociétés décrites sur ces îles imaginaires ont vocation finalement à représenter le monde, à avoir une portée universelle. Et c'est peut-être en cela que l'île est pour vous comparable au théâtre, par exemple, Éric Fougère ?
Oui, alors effectivement, il faut se rappeler peut-être ce qu'était le théâtre shakespearien du globe, puisque Shakespeare est le premier auteur d'une pièce théâtrale insulaire où l'île peut passer pour un laboratoire. Bon,
évoquez la tempête.
Il faut se rappeler. Non, oui, alors bien sûr, oui. Et il faut se rappeler à quoi ressemblait le théâtre élisabéthain du globe, puisque c'était son nom, globe comme le monde, un plateau dressé dans une cour à ciel ouvert, isolé par une haute muraille, entouré d'un bâtiment circulaire à l'entrée duquel il était écrit que le monde entier joue la comédie. Mmh. Et donc effectivement, l'île est bien la fiction du monde, et ça se comprend dans les deux sens, en tant que scène utopique, elle est une invention de l'homme, et en tant que fiction littéraire, elle invente en quelque sorte le monde qu'elle est. Et donc effectivement, Prospero remplit cette double fonction de démiurge et puis de dramaturge, qui organise un contrôle intégral exposant l'île entière à la surveillance d'un expérimentateur en terrain social et politique. D'usurpation, de domination, de colonisation, de révolution.
On va écouter maintenant un extrait de l'Utopie de Thomas More.
S'il faut en croire des traditions, pleinement confirmées du reste par la configuration du pays, l'île d'Utopie ne fut pas toujours une île. Elle s'appelait autrefois Abraxa et tenait au continent. Utopus s'en empara et lui donna son nom. Ce conquérant eut assez de génie pour humaniser une population grossière et sauvage et pour en former un peuple qui surpasse aujourd'hui tous les autres en civilisation. Dès que la victoire l'eut rendu maître de ce pays, il fit couper un isthme de 15 000 pas qui le joignait au continent, et la terre d'Abraxa devint ainsi l'île d'Utopie. Utopus employa à l'achèvement de cette œuvre gigantesque les soldats de son armée aussi bien que les indigènes, afin que ceux-ci ne regardassent pas le travail imposé par le vainqueur comme une humiliation et un outrage. Des milliers de bras furent donc mis en mouvement, et le succès couronna bientôt l'entreprise. Les peuples voisins en furent frappés d'étonnement et de terreur, eux qui, au commencement, avaient traité cet ouvrage de vanité et de folie.
Un extrait donc de l'Utopie de Thomas More, paru en 1516, une quinzaine d'années avant le prince de Machiavel. Alors quelle est cette nouvelle société que Thomas More prétend inventer, Ioana Andreescu ?
Thomas More voudrait en fait présenter une nouvelle typologie de société, une société qui est d'ailleurs très très loin de l'Angleterre. Et c'est une civilisation presque parfaite, selon mon point de vue, qui est fondée sur les principes de l'égalité, de la justice, de la bonté. Il y a beaucoup d'aspects qui sont traités, par exemple le système éducatif, l'égalité entre les hommes et les femmes, même si le système reste quand même patriarcal.
Et en même temps, c'est une société assez autoritaire.
Et en même temps, c'est aussi une société assez autoritaire, construite un peu avec entre les philosophes et le pouvoir, le souverain, en fait, qui était à la base, était le roi Utopus. Je pense que le contexte pourrait bien éclaircir, en fait, l'apparition, l'émergence, en fait, de ce roman tellement, qui a fait tellement qui a eu tellement une bonne réception, qui s'appelle Le lieu de nulle part. Finalement, un terme forgé par Thomas More, le nom et le lieu. À ce moment-là, Thomas More, il est avocat et il se fait remarquer par Henri VIII. Du coup, il commence à avoir de plus en plus de tâches au sein du souverain, ce qui le met dans l'impossibilité de écrire, par exemple, un essai ou un traité tout court qui parle directement de ces aspects-là qu'il traite dans l'utopie.
Donc il va prendre le prétexte de la fiction pour faire passer un certain nombre de messages politiques.
Exactement. En fait, dans cet ouvrage, lui, il-même, il est présenté en tant que personnage. Il y a aussi un autre humaniste, Pierre Gilles, qui fait partie d'un groupe de diplomates qui rencontre ce marin navigateur qui s'appelle Raphaël et qui, en fait, c'est Raphaël qui va raconter en fait ce qu'il a vu sur l'île de l'Utopie.
Et ce qui est intéressant, c'est que cette île, au départ, n'en est pas une, elle est rattachée par un isthme, et il va y avoir cet acte fort qui est de couper, de casser cet isthme qui fait rejoindre l'île et le continent.
Oui, on voit justement la volonté de se séparer en fait du continent, de se créer un espace à soi, et on pourrait rappeler à un lien avec cette idée, en fait, le nom de l'île initiale n'est pas Utopie, c'est Abraxas. Et cette île, en fait, c'est la ville des fous dans l'ouvrage de l'ami de Thomas More qui est Erasme. Et cette Abraxas apparaît aussi dans l'Éloge de la folie. On voit ainsi comme le partage, en fait, ça s'effectue aussi au sein des œuvres et aussi dans un cercle de penseurs, finalement, de l'époque. Et que les choses qu'on pourrait penser neutres, en fait, elles ne sont pas du tout neutres. Vous avez déjà parlé de Machiavel. Machiavel, il n'était pas du tout content de la publication tellement bien reçue de ce roman, de l'utopie, qu'il va proposer dans un peu de temps après Il Principe, le prince, et il s'empare aussi de ce thème de l'utopie. Il dit non, ça ce n'est pas possible, en fait, c'est juste un système vraiment autoritaire qui pourrait vraiment maintenir la paix et maintenir les places, ce qui n'est pas en fait l'idée de Thomas More, qui est beaucoup plus pacifiste, libéral, en fait, dans ses propos sur l'utopie.
Ce qui est intéressant, c'est que la première partie de l'utopie de Thomas More, c'est finalement un long réquisitoire contre les injustices de la société anglaise. Et la seconde partie propose une alternative. On a d'abord le problème qui est posé, en quelque sorte, et la solution qui est apportée dans un second temps, Ioana Andreescu.
Oui, c'est exactement en fait ce qu'il fait. D'abord, en fait, il y a une sorte de création entre ces deux parties de l'ouvrage. En fait, la première, comment est-ce qu'on découvre cette île modèle, en fait, ce modèle de société, et c'est aussi une manière de se protéger pour Thomas More, pour dire ce ne sont pas mes propos, je ne suis en fait pour rien dans ce récit, je l'ai juste entendu. On voit en fait qu'au fil du récit, les personnages, Pierre Gilles et Thomas More, ils deviennent de plus un peu confiants à ce niveau de société. On peut rappeler, en fait, qui est voilà ce qui se passait en réalité, que malgré le soutien qu'il avait reçu de la part de Henri VIII, Thomas More se fait décapiter finalement par le même roi parce que parce qu'il n'a pas voulu signer l'acte de suprématie qui confirmait le divorce, en fait, de Henri VIII et le mariage avec Anne Boleyn. Du coup, on voit en fait à quel point on a presque, on pourrait dire, des parties de vie et des parties de la narration, de la fiction, qui s'imbriquent une dans l'autre. Raison pour laquelle, pour moi, en fait, on pourrait bien utiliser ensemble le contexte et le texte, en fait, et aussi de les voir dans une multiscipline, en fait, qui est spécifique. D'ailleurs, pour moi, à l'acte littéraire.
Alors, on parle évidemment de l'utopie de Thomas More, mais il faut parler également de Robinson Crusoe, le roman de William Defoe, qui a été publié en 1719 et qui parle également de la société de son temps. C'est un roman qui est emblématique pour vous, Ioan Andreescu, des évolutions politiques et sociales du monde occidental au XVIIIe siècle.
Oui, absolument. C'était un roman qui m'a beaucoup intriguée au début parce que c'est un roman qu'aujourd'hui, c'est un roman pour les enfants. On a, voilà, une aventure qui est dédiée à un lectorat de jeunesse. Mais en fait, au moment de sa publication, ce n'était pas du tout le cas. C'est un roman écrit par quelqu'un qui n'est pas du tout un écrivain. Du coup, on voit tel que Thomas More, il n'était pas un écrivain. Defoe, à la base, il n'est pas forcément un écrivain. En fait, il a une vie très agitée. Il est journaliste, il fait du commerce, il est espion. En fait, il fait beaucoup, beaucoup de choses. Il fait faillite à plusieurs fois dans sa vie. Et après, il se tourne vers la littérature, un écrivain, Robinson Crusoe, qui est en fait un récit qui veut renforcer en fait aussi l'idéologie d'antan. Et pourquoi, vous pouvez me poser la question, cela parce que à cette époque-là, écrire simplement de récits de voyage, c'était vu en tant que très, en fait, ce n'était pas du tout bien vu par rapport à écrire de la philosophie ou sur les questions religieuses. Du coup, Daniel Defoe le dit justement, en fait, c'est quelque chose qui va parler de cette expérience, de cette aventure de Robinson Crusoe, le nom de Crusoe vient du nom de croisade, voilà, qui va civiliser, discipliner. Et il y a aussi ce projet religieux qui se fait par rapport aux colonies. C'est une période très chargée de ce point de vue.
Un projet qui a d'ailleurs été largement critiqué.
On imagine mal un roman davantage ennuyeux. C'est une tristesse de voir encore des enfants le lire. La vision du monde de Robinson réside exclusivement dans la propriété. Et jamais on a vu de propriétaire aussi moralisant. La récréation mythique du monde, à partir de l'île déserte, a fait place à la recomposition de la vie quotidienne bourgeoise à partir d'un capital. Tout est tiré du bateau, rien n'est inventé, tout est appliqué péniblement sur l'île. Le temps n'est que le temps nécessaire au capital pour rendre un bénéfice à l'issue d'un travail. Et la fonction providentielle de Dieu, c'est de garantir le revenu. Dieu reconnaît les siens, les honnêtes gens, parce qu'ils ont de belles propriétés. Les méchants, de mauvaises propriétés et mal tenues. Le compagnon de Robinson n'est pas Ève, mais Vendredi, docile au travail, heureux d'être esclave, trop vite dégoûté de l'anthropophagie. Tout lecteur saint rêverait de le voir enfin manger Robinson. Ce roman représente la meilleure illustration de la thèse affirmant le lien du capitalisme et du protestantisme. Robinson Crusoe développe la faillite et la mort de la mythologie dans le puritanisme.
On vient d'entendre un extrait de L'île déserte, un article de Gilles Deleuze, paru en 1953. Pour un certain nombre de penseurs, Ioan Andreescu, Robinson incarne la mentalité capitaliste et il est même considéré comme une figure de l'homo economicus par certains.
Oui, absolument. En fait, il est même considéré comme le seul mythe qui a été produit par la société européenne moderne, tel que le dit Michel de Certeau. Et pourquoi? Parce qu'il y a en fait l'île qui est la page blanche, il y a l'écrivain ou voilà l'historien qui est en fait Robinson, et il y a cet acte d'écriture de découverte de l'île. En fait, on retrouve ici le seul mythe dans une société moderne qui est désenchantée. On retrouve ce propos aussi dans ce que Deleuze dit, et on voit que après la Seconde Guerre mondiale, on a un énorme intérêt vers le thème de Robinsonade, mais c'est presque un récit qui se tourne contre lui-même, on pourrait dire, parce que les valeurs ne sont plus du tout le même, elles sont presque inversées.
Mais avant d'en arriver à la Seconde Guerre mondiale, oui, sur laquelle on va évidemment revenir, est-ce que vous diriez, Ioan Andreescu, que Robinson finalement raconte en accéléré la civilisation occidentale? Vous parliez tout à l'heure de la question coloniale, le penseur de l'orientalisme, Édouard Saïd, y a aussi vu une légitimation de l'idéologie coloniale.
Oui, je pense que de manière Finalement, en fait, il y a beaucoup plus d'aspects qu'on pourrait traiter, mais c'est sans doute un angle de lecture, en fait, de cet ouvrage qui est finalement l'ouvrage, il est très très connu à l'époque et même après, ce qui constitue d'ailleurs qu'il soit perçu comme un mythe. Et puisque il contribue de manière active en fait à ce récit qui est impliqué, et ça peut être évidemment c'est l'histoire du colonialisme, du esclavagisme, c'est une histoire qui est très très lourde pour l'Europe d'ailleurs, et très très présente aussi. Du coup, on pourrait dire que ce récit il est porteur en fait de tout un passé, de toute une histoire officielle, on pourrait dire.
Il illustre aussi une époque qui est en train d'assister à la création de l'État-nation et l'importance grandissante de l'individualisme au sein de la société, Ioana Andreescu.
Oui, c'est un roman individuel, en fait, qui présente l'histoire d'un individu assez médiocre, assez banal. Du coup, c'est un anti-héros, presque, ce que Robinson constitue. Il est très individualiste. On voit, en fait, dans ce roman qu'il est très, très préoccupé à tout retirer du navire, du bateau sur lequel il est venu, après d'implémenter sur l'île un système capitaliste. Et ce n'est pas le besoin économique qui est remis en cause, en fait, qui crée une question là-dessus, mais c'est plutôt cette idéologie capitaliste qui commence à se développer aussi à travers Robinson Crusoe. Tout ce système, en fait, qui est remis en place et qui s'adresse à un lectorat.
Et au contraire, on va voir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le Robinson de Michel Tournier va se proposer, lui, de renverser l'ordre établi. On en parle dans un instant.
Our ship slowly sinking, and I smell an island on the horizon. Sharks are surrounding, but we swim off to safety. And I can remember when we were still friends. We clung together, playing Robinson Crusoe. And I can remember birthday parties.
Robinson Crusoe de Fredo Viola sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, Ioana Andreescu et Éric Fougère sont toujours avec nous pour parler de l'île, ce lieu de l'utopie. Alors, Vendredi ou les limbes du Pacifique, ce roman de Michel Tournier, est l'une des multiples réécritures du mythe de Robinson. Le roman est publié 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et il est marqué justement par le traumatisme de la guerre. Comment est-ce que cela s'illustre, Ioana Andreescu?
Michel Tournier affirme dans ses entretiens qu'il a vraiment voulu s'emparer de ce thème et de le réécrire en utilisant tout un bagage philosophique qu'il n'avait pas pu utiliser ou disposer autrement. Puisque le trajet de Michel Tournier impose en fait ce détour vers la littérature, on pourrait dire. Initialement, il voulait devenir professeur de philosophie. Et après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il avait étudié la philosophie en Allemagne, il ne passe pas l'examen d'agrégation. Du coup, il a essayé une fois, il a essayé une deuxième fois, et après il a commencé de s'orienter vers d'autres types de d'emplois, comme le journalisme, la radio, et dans la maison des éditions. Et après, il a voulu vraiment se dédier à l'écriture, et il a proposé ce premier roman.
Dans ce roman, Robinson commence par faire de Vendredi son esclave, il le bat, mais petit à petit il va apprendre à vivre à la manière de Vendredi et à faire une véritable expérience de l'altérité. On voit ainsi le cheminement depuis le XVIIIe siècle, les idéaux de foi dans le progrès et la modernité ont disparu avec la Deuxième Guerre mondiale, Ioana Andreescu.
Je dirais pas forcément qu'elles ont disparu, je dirais qu'elles sont complétées par quelque chose d'autre. Et tel que Michel Tournier, en fait, il commence presque de même manière que Robinson Crusoe par Defoe, en présentant ce Robinson qui est très borné et qui est très discipliné et très organisé. Est très inhumain d'ailleurs, en fait, on voit comment il évolue et comment ce besoin de l'autre, de aussi ce processus qui est très long, mais finalement ça se fait sur l'île, on rencontre de l'autre, et que ce n'est pas quelque chose de simple d'accepter l'altérité, d'essayer de tolérer ou même d'aimer l'altérité. C'est exactement ce que Michel Tournier voudrait dire dans ce roman, en fait, ce n'est pas forcément quelque chose contre le progrès, mais qu'il y a tout ce besoin d'amour, de complexité, de compréhension de l'autre qui devrait accompagner, en fait.
C'est-à-dire qu'au lieu de reproduire l'ordre extérieur, finalement, c'est l'île qui va métamorphoser Robinson.
Oui, d'un côté, c'est l'île, et aussi Vendredi, il commence comme un personnage qui est l'esclave de Robinson, comme dans le roman de Defoe, mais après, il évolue énormément, et il y a presque les deux personnages, finalement, dans le récit de Michel Tournier. Robinson et Vendredi commencent presque à se ressembler, de manière physique et aussi psychologique, en fait, ils vont un vers l'autre. Ils vont se rencontrer à cet espace de l'île, et finalement, à la fin du roman, il y aura Vendredi qui va quitter l'île pour aller vers la civilisation et Robinson qui va rester sur l'île.
Éric Fougère, on voit bien avec ce roman de Michel Tournier à quel point la littérature peut être un outil de pouvoir capable d'agir sur les représentations.
Je ne sais pas si le pouvoir consiste à agir sur les représentations. Oui, certainement, oui, vous avez raison. Mais bon, moi, personnellement, ce n'est pas la réécriture du roman de Defoe que je préfère chez celle de Tournier. Bon, je pense qu'il y en a de bien plus intéressantes. Quoi qu'il en soit, bon, cette version un peu New Age, un peu hippie, bon, effectivement, montre bien que les enjeux de l'île sont des enjeux de pouvoir. Je dirais que c'est dérivé de l'idée que, bon, pour revenir à ce qu'est l'île au théâtre et à ce qu'est l'île d'utopie de Thomas More, c'est l'idée que la visibilité totale à laquelle on soumet l'île, ne serait-ce que parce que, et c'est un des stéréotypes, bon, d'arriver sur l'île, hein, on voit ça chez Robinson Crusoe, on voit ça aussi chez... Dans l'île mystérieuse, bon, on arrive et pour voir où on est arrivé, on monte sur n'importe quelle éminence, n'importe quel relief, et on s'aperçoit effectivement que c'est une île au fait que on la voit tout entière, voilà. Mmh. Et donc cette visibilité totale, hein, elle est la condition d'une espèce d'intelligibilité aussi. Hein, on peut comprendre l'île par la vue et par l'esprit, et puis bien sûr, effectivement, c'est dernier avatar de cette configuration, c'est l'idée qu'on a tout pouvoir, effectivement, sur ce qu'on voit.
Et voilà. C'est en cela qu'elle peut être représentative, effectivement, de l'humanité entière. Ioana Andreescu, le roman de Michel Tournier appartient à ce que l'historien Lewis Memdorf appelait les utopies de reconstruction par opposition aux utopies de fuite.
Je pense que oui, ça pourrait être interprété de cette manière, que c'est une reconstruction du monde, parce que déjà, c'est un hypertexte de Robinson Crusoe. On voit bien d'où ça part et vers quoi cela veut évoluer. Aussi, cette idée de reconstruction, on peut rappeler le fait qu'il y a Vendredi ou La vie sauvage, qui est la version abrégée, raccourcie pour les écoliers, voilà, pour les enfants, que Michel Tournier veut écrire justement pour avoir cette sorte de diffusion aussi au sein de l'école et pour avoir plus de lectorat, un lectorat encore plus complet. Et il disait d'ailleurs que pour lui, c'est son prix Nobel à lui, c'est cette manière d'être lu à la fois par Gilles Deleuze, qui écrit la préface de son texte, et aussi par des enfants.
Et alors, il y a une autre fiction insulaire, justement, vous parlez des enfants, Ioana Andreescu, qui a été marquée par le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit de Sa Majesté des Mouches, publiée par William Golding en 1954. Alors, que raconte ce roman et comment dynamite-t-il, justement, les vertus supposées de la civilisation ?
C'est un roman qui raconte l'histoire d'un groupe d'écoliers qui font naufrage sur une île déserte. Ça se passe pendant une autre guerre, on ne sait pas laquelle, une nouvelle guerre, et eux, ils sont délivrés à eux-mêmes sur cette île. Et on voit qu'au fur et à mesure, autant qu'ils essayent de rester, on peut dire, civilisés et de reconstruire un microcosmos britannique à l'échelle de l'île, ils vont se séparer dans deux groupes qui devient de plus en plus violent et qui fait la chasse et finalement qui va également chasser certains écoliers qui sont sur l'île. Et l'autre qui est plutôt conduit par la raison, par le fait d'être sauvé et qui s'empare à d'autres tâches comme celle d'entretenir le feu afin d'être vu, voilà, qui va diminuer de plus en plus.
Donc finalement, c'est une contre-utopie. Il s'agit de formuler un avertissement en transformant l'Éden de l'île en champ de cendres, puisque c'est un incendie qui va se déclarer sur l'île à la fin, Ioana Andreescu.
Oui, à la fin, les enfants en fait vont mettre l'île en feu. Il y a un des personnages, Ralph, qui est chassé sur l'île par les autres garçons qui veulent le tuer en fait. Et il se fait à la dernière minute, il est sauvé en fait par des adultes qui viennent d'arriver sur l'île. Mais c'est aussi une, on peut dire que il n'est pas entièrement sauvé, puisque toute l'action se passe pendant une seconde guerre mondiale, et l'adulte qui le sauve en fait il fait partie de l'armée. Du coup, on voit que la menace de la guerre, elle est là-bas et qu'elle est très très présente. Ça se lie aussi au fait que l'écrivain lui-même, William Golding, il a dû participer à la guerre, il a dû en prendre compte, et c'est un roman qu'il décide d'écrire justement après cette expérience. Et il dit à ce moment-là, j'étais convaincue que l'être humain produit le mal comme les abeilles produisent du miel. On voit cette comparaison en fait, à quel point il y a toutes ces craintes, toutes ces peurs qui sont encore là, qui sont très présentes. Et il réécrit en fait un autre texte qui est un texte de Ballantyne, qui présente un groupe d'écoliers qui se débrouillent très bien sur l'île. Mais ça, c'est avant les guerres, on peut dire.
C'est un siècle avant, un roman de l'écrivain Robert Michael Ballantyne, L'île de Corail.
Exactement, c'est L'île de Corail qui en fait, il s'empare de ce roman pour le réécrire et pour dire, en fait, la civilisation occidentale telle on avait l'habitude de l'apercevoir, ce n'est pas du tout la bonne manière de voir les choses. Il faut se remettre beaucoup en cause.
Il y a de nombreux romanciers qui se sont emparés de ce concept, de ce motif de l'île pour proposer une société alternative. C'est aussi le cas d'Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes, qui a publié L'île un an avant sa mort. Il y raconte la découverte par un journaliste britannique, Will Farnaby, de la société de Pala, qui vit dans la quiétude sur une petite île perdue de l'océan Indien. Comment est-ce qu'on peut décrire cette société qui se présente comme idéale, Ioana Andreescu ?
Oui, c'est une société idéale qui a la capacité de trouver voilà, une manière très équilibrée entre ce qui est développement technologique et développement de l'être intérieur. En fait, on peut dire, Aldous Huxley, il était très préoccupé par le fait de trouver ce troisième chemin qui est entre le capitalisme, en tout cas entre une idéologie capitalisme et de consommation, et de ce qui était les failles du communisme, de ce qui se passé en fait justement à cette époque-là, dans les années 60. Et bon, il propose cet enclos paradisiaque en fait de l'île où les meilleures choses, les choses sont combinées de meilleure façon en fait. L'éducation, elle est très bien proportionnée, les enfants ont plusieurs familles où ils peuvent se rendre, il y a un détachement, une capacité de se détacher par rapport à perte, et un détachement aussi des valeurs chrétiennes qui sont perçues en tant que lourdes et sont remplacées un peu par une religion plutôt d'orientation bouddhiste. Et en même temps, c'est une île qui est riche, qui sait utiliser tout ce qui est technologie, qui a en fait cette double capacité de s'ouvrir au monde et de conserver un monde.
Mais en même temps, le fait que justement cette île possède des réserves pétrolières, c'est ce qui va attiser la convoitise de l'État de Rendang. La lecture que nous allons entendre est extraite de la fin du roman au moment de l'offensive de Rendang.
Venant de la grande route, au-delà des murs du bâtiment, un grondement de poids lourds gravissant la côte arriva, de plus en plus puissant. Dominant le grondement, une voix criarde vociférait des sons incompréhensibles dans un puissant haut-parleur. Malgré lui, Will se mit à écouter. « Peuple de Pala, entendit-il, votre Raja vous parle. Demeurez calme, faites bon accueil à vos amis d'au-delà du détroit. » Puis la voix explosa en un grondement inarticulé. « Cri, grondement, cri, puis le progrès, la vie moderne, vérité, valeur, spiritualité authentique, pétrole. » On entendit une détonation isolée, puis une rafale tirée par un fusil automatique. Souzila s'enfouit le visage dans les mains. Elle tremblait. Le travail de 100 années anéanti en une seule nuit. Les démarreurs grincèrent. L'un après l'autre, les véhicules se remirent à gronder. Les phares s'allumèrent. Après 1 minute de manœuvre bruyante, les voitures reprirent lentement le chemin par lequel elles étaient venues. Le haut-parleur attaqua bruyamment les premières mesures d'un hymne à la fois martial et lascif, dans lequel Will reconnut l'hymne national de Rendang. Après quoi, on entendit une répétition du discours sur le progrès, les valeurs, le pétrole, la spiritualité authentique. Brusquement, une fois encore, la procession disparut, à la vue et à l'oreille. 1 minute plus tard, elle réapparaissait, avec la voix de son bonimenteur, célébrant les louanges du premier ministre du nouveau Royaume-Uni.
La société idéale de Pala va disparaître ainsi à la fin du roman à cause de l'offensive de l'état voisin du Rendang, Ioana Andreescu.
Oui, elle va disparaître parce que l'île est, on peut dire, vendue. Le travail du personnage principal de Will, le journaliste, est aussi de négocier en fait et de participer. Et autant que l'île, elle va être, voilà, elle va être vendue, elle va être donnée, le personnage principal, il évolue en fait. Autant qu'au début du roman, il voudrait juste bien négocier afin d'avoir un an de congé. Il arrive vers la fin du roman, il est contre l'invasion de cette île, qu'il commence à se sentir affectionné, apprécié. Énormément. On voit en fait que l'île elle disparaît, mais de nouveau on a ce retour vers la réflexion de l'individu.
On a le sentiment qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'île est devenue finalement le lieu d'évocation de la disparition ou de la destruction de l'humanité, Ioana Andreescu.
Oui, absolument. Et on pourrait de nouveau faire le lien avec un autre roman de Aldous Huxley, Le meilleur du monde, qui apparaît avant la Seconde Guerre mondiale. On voit de nouveau la fonction d'anticipation spécifique à l'utopie. D'ailleurs, on peut voir toutes sortes d'autres scénarios qui sont d'actualité, qui proviennent du monde utopique. Et pour en citer seulement quelques-uns, on pourrait parler, par exemple, des utopies écologistes, en fait, qui s'emparent de ce sujet. On pourrait rappeler à ce titre le roman L'île de béton. Après, de tout ce qui touche le climat. Hein, et de ce point de vue, on a même des films tels que Melancholia ou le jour d'après. voilà, qui vont traiter
ce thème de la fin du monde.
De la fin du monde à cause de quelque chose, d'un désastre lié au climat. Il y a aussi beaucoup d'utopies liées à l'informatique, en fait, à cette invasion de l'informatique, à tout ce qui est domination par l'internet, on pourrait dire, et aussi les utopies on pourrait les appeler de reproduction, par exemple La Servante écarlate, un roman et un film qui est très très lu et diffusé, qui parle en fait de ces nouveaux problèmes. Et pourquoi pas, on pourrait même rappeler Soumission par Houellebecq, voilà, qui parle aussi d'un autre sujet de l'évolution de la société.
Mais on parle plus loin, on part plus loin que Lille, peut-être pour revenir à Lille justement. Un dernier mot, Ioana Andreescu, sur Lille comme lieu peut-être aussi de l'introspection, de l'expérience de soi, comme par exemple dans Un homme obscur de Marguerite Yourcenar, un roman qui nous dit encore quelque chose de la société.
C'est un roman, oui, qui présente l'évolution, la vie d'un personnage qui est très très simple. On l'appelle l'homme obscur, mais qui est d'ailleurs très modeste, qui arrive à avoir une compréhension du monde encore meilleure, on pourrait dire, parce qu'il arrive à se retourner vers soi et de se comprendre soi-même.
Un grand merci, Ioana Andreescu et Éric Fougère, de nous avoir accompagnés aujourd'hui.
Merci.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Et vous nous parlez aujourd'hui d'un ouvrage de l'économiste Philippe Léger qui s'intéresse aux conditions d'élaboration et de justification de la loi El Khomri.
Absolument, dans ce livre intitulé « Production et légitimation d'une réforme », l'économiste s'intéresse ainsi aux artisans de la loi, de la ministre El Khomri, au ministre de l'économie de l'époque, un certain Emmanuel Macron, mais aussi au contexte politique et au processus de légitimation d'une réforme qui n'avait rien d'une évidence. L'ouvrage se livre ainsi à une analyse méticuleuse de la production de discours, ces fameux éléments de langage produit en masse par le ministère du Travail et les services du Premier ministre pour expliciter et justifier une loi aux contours mouvants. Philippe Léger, démontre ainsi comment le gouvernement s'est échiné au fil des attentes et des contestations à faire évoluer son discours pour rendre cette loi acceptable. Il faut dire que sur le papier, la réforme n'est pas très attrayante. On parle alors de simplification, de refonte du dialogue social, pas vraiment de quoi passionner les foules et les médias.
La stratégie politique et médiatique du gouvernement va alors évoluer, adopter un discours beaucoup plus offensif, en général.
Absolument. On entend rapidement circuler dans les journaux et à la télévision l'objectif de réformer et de réduire un code du travail devenu tour à tour complexe, obèse, illisible, autant de lieux communs visant à justifier l'affaiblissement des droits des salariés au nom de l'intérêt supérieur de l'entreprise et du travailleur. Car on ne tarde pas à renouveler ce catéchisme officiel et à présenter cette loi comme une solution pour réduire le chômage. La logique est assez simple. En facilitant le licenciement, les entreprises seraient plus enclines à embaucher. Le discours classique du gagnant-gagnant du côté des employeurs comme de celui des travailleurs a alors fait florès dans les médias. Pierre Jacquemin, ancien conseiller technique de Myriam El Khomri, qui quitta ses fonctions à l'occasion de cette fameuse loi travail, explique ainsi qu'à l'époque, le gouvernement sentait, compte tenu de son échec sur le front de l'emploi, qu'une loi portant strictement sur l'organisation du travail et sur le dialogue social serait insuffisante. Le texte se pare alors des vertus de l'évidence en se présentant comme une loi destinée à lutter contre le fléau du chômage.
Or, Philippe Léger relève qu'il n'y a pas grand monde alors pour croire à cette fonction de la loi.
Non, effectivement, pas plus le ministre de l'économie que le président de la République ne se presse pour vanter ce mécanisme de l'embauche facilité par le licenciement. Une fois de plus, le discours évolue. Face aux critiques, la ministre du Travail défend cette fois l'utilité de sa réforme pour favoriser le recours au CDI. Dans un exercice d'équilibrisme politique, la ministre laisse entendre que la loi contribuerait à substituer de l'emploi stable à de l'emploi précaire. Une logique pour le moins étrange puisque Emmanuel Macron explique en même temps que le salariat doit se réformer pour épouser les évolutions du marché. En clair, il faut déréguler le marché du travail pour favoriser l'accès des jeunes, des seniors et des femmes. Ainsi, Augustin Landier, économiste favorable à la réforme, rappelle que l'objectif de la loi n'est pas de faire baisser le taux de chômage, mais d'augmenter la probabilité pour chacun d'obtenir, en un temps raisonnable, un emploi stable. L'objectif n'est donc plus celui du plein emploi, mais d'une forte efficience dans la rotation des travailleurs entre les tâches précaires qui leur sont proposées. Comme le signale Philippe Léger, si chacun passe fréquemment mais de façon brève par la case emploi, la situation est jugée satisfaisante. Des strates de justification parfois contradictoires pour légitimer la nécessité de détricoter les droits du travail.
C'est la fameuse logique de la flexi-sécurité déjà éprouvée en Allemagne, en Italie ou en Angleterre.
Exactement. Se fixant pour objectif de fluidifier le marché du travail, l'exécutif a fait sienne l'idée selon laquelle l'économie, pour fonctionner correctement, devrait être agile, souple, adaptable. Il relègue dans le même mouvement des siècles de lutte et de conquête sociale dépeintes comme les reliques d'un monde perdu. En faisant du travailleur une variable d'ajustement du système productif, le gouvernement ne fait en réalité que réaliser la prophétie de Michel Foucault, pour qui le projet du néolibéralisme était la mise en concurrence non seulement des entreprises et des biens, mais aussi des personnes sur les marchés.
Merci beaucoup Arjuna, on vous retrouve lundi et d'abord on va retrouver Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternative Économique, comme un jeudi sur deux. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et vous êtes venu avec le chiffre du jour 20.
Oui, c'est le nombre des îles parmi les 30 paradis fiscaux que l'Europe avait recensé officiellement en 2017. Cette liste résulte elle-même d'une liste plus large encore de 85 territoires qu'au moins un des États de l'Union considérait comme un paradis fiscal et 60 d'entre elles étaient des îles.
Une véritable spécialité insulaire donc. À quoi est-ce dû Guillaume ?
C'est dû d'abord à de réels handicaps économiques, du fait de l'éloignement de ces territoires et de la faiblesse de leur marché intérieur. Ces caractéristiques poussent, et on peut même dire obligent, ces États à offrir des conditions fiscales plus avantageuses que les grands États continentaux pour attirer investisseurs et capitaux. La France propose ainsi des avantages fiscaux spécifiques à ceux qui acceptent d'investir dans ces territoires ultramarins. Il est important de garder en tête cette base rationnelle de la faible fiscalité insulaire si on veut combattre efficacement les paradis fiscaux. On ne peut pas exiger d'eux de s'aligner purement et simplement sur les standards continentaux, sauf à accepter de les subventionner massivement. La question est plutôt de savoir à quel niveau peuvent-ils légitimement offrir de meilleures conditions fiscales que nous.
Mais ça n'explique quand même pas tout, Guillaume.
Ah non. Sur ces justifications rationnelles se greffent évidemment d'autres nettement moins avouables. L'isolement et l'éloignement deviennent en effet des atouts majeurs quand il s'agit de cacher le résultat de malversations ou de la fraude fiscale. Et sur ce plan, les îles ont beaucoup gagné en attractivité grâce au progrès des télécommunications par rapport à l'époque où cela se passait en transportant des valises de billets. En ce temps-là, les paradis fiscaux étaient plus souvent des territoires comme la Suisse, Andorre ou Monaco, enclavés au sein des zones économiques les plus riches.
Et alors comment se fait-il, Guillaume, qu'on ait laissé perdurer une telle situation ? Je sens que vous allez me dire que c'est une excellente question.
Tout à fait. Ces territoires sont peu peuplés, dépourvus de tout poids militaire, très dépendants du reste du monde pour l'essentiel de leur approvisionnement. Bref, ils sont très fragiles. Ils n'ont pu prospérer jusqu'ici en tant que paradis fiscaux que parce qu'ils ont bénéficié de la protection des dirigeants des grands États, souvent leurs anciens maîtres coloniaux ou même toujours aujourd'hui leur pays de tutelle. Ces États sont contents tout d'abord de ne pas avoir, grâce à cela, à subventionner ces poussières d'empire, mais aussi et surtout, leurs dirigeants n'étaient pas du tout désireux jusqu'ici de faire une peine excessive à leurs très riches, grands donateurs aux partis politiques et grands utilisateurs de ces paradis fiscaux, ni aux dirigeants de leurs multinationales, toujours très proches également du pouvoir politique et qui y planquent l'essentiel de leurs profits.
On en est donc encore là.
Pas vraiment, ça commence à changer du fait des difficultés budgétaires croissantes des grands États et du caractère de plus en plus insoutenable de politiques qui taxent davantage les pauvres et les classes moyennes que les très riches et les profits des grandes entreprises, au motif que ceux-ci peuvent les planquer dans les paradis fiscaux. Mais évidemment, cela reste encore une bagarre très dure.
Merci beaucoup Guillaume Duval. Un mot peut-être sur Alternative Économie qui propose désormais une nouvelle formule ?
Oui, nous lançons ce mois-ci notre nouvelle formule. Donc, on nous reprochait souvent d'être un peu dense, trop difficile à lire. Donc, on a voulu être plus aéré, plus clair. On propose aussi des dossiers plus approfondis sur des sujets. On nous disait souvent que c'était un peu court. On veut laisser une plus grande place aux graphiques, aux cartes, aux dessins, à la BD et aux photos. Mais on place aussi on donne la parole aussi à des chercheurs de manière accrue. Voilà, mais je laisse
une nouvelle
évidemment
formule à découvrir et qu'on lira évidemment de près. Merci beaucoup Guillaume Duval, on vous retrouve dans deux semaines.
Thank you.
On se quitte avec le groupe Beyrouth On Meno Island. Merci beaucoup Johan Andrescu et Eric Fougère de nous avoir fait découvrir ces utopies insulaires. Merci également aux techniciens de France Bleu Provence qui ont permis ce duplex. On se retrouve demain pour un débat autour de la réforme de la fonction publique. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.